Chapitre 2. Mort de l'honneur.
Disordre, nous étions aimés autrefois. Pourquoi nous avoir abandonnés, tout-puissant ? Éclat de mon âme, où êtes-vous parti ?
Recueilli le deuxième jour de Kakash en l'an 1171, 5 secondes avant la mort. Le sujet était une femme pâle iris dans sa 3e décennie. 8 mois plus tard. L'estomac de Kaladin grondait lorsqu'il passa le bras à travers les barreaux et accepta le bol de pitance. Il attira entre les barreaux le petit bol, qui tenait plutôt de la coupe, le renifla, puis grimaça tandis que le chariot grillagé se remettait en route. La pitance grise et pâteuse était faite de graines de talieux trop cuites, et cette portion-ci était émaillée de vestiges séchés du repas de la veille. Aussi répugnante soit-elle, il ne recevrait rien d'autre. Il se mit à manger, les jambes pendant entre les barreaux, regardant défiler le paysage. Les autres esclaves, partageant sa cage, serraient leur bol d'un air protecteur, redoutant qu'on le leur vole. L'un d'entre eux avait tenté de dérober le repas de Kaladin le premier jour. Il avait failli lui casser le bras. Désormais, tous le laissaient tranquille, ce qui lui convenait très bien. Il mangeait avec les doigts sans se soucier de la saleté. Il avait cessé de la remarquer des mois auparavant. Il détestait ressentir en partie cette paranoïa qu'il voyait chez les autres. Comment aurait-il pu en être autrement après 8 mois de coups, de privations et de brutalité? Il luttait contre cette paranoïa. Il refusait de devenir comme eux. Même s'il renonçait à tout le reste, même si tout lui avait été repris, même s'il n'y avait plus d'espoir d'évasion. Ça au moins, il le conserverait. Il était un esclave. Mais il n'avait pas besoin de penser comme tel. Il s'empressa de finir sa pâtée. Près de lui, l'un des autres esclaves se mit à tousser faiblement. Il y avait 10 esclaves dans le chariot. Tous des hommes, crasseux et la barbe en bataille. Ce chariot faisait partie d'une caravane de 3 traversant les collines inconquises. Le soleil brillait d'une éblouissante lumière blanc-rougeâtre à l'horizon, comme la partie la plus chaude du feu d'un forgeron. Elle éclairait les nuages environnants d'une touche de couleur, comme de la peinture jetée négligemment sur une toile. Les collines, couvertes d'herbes hautes d'un vert monotone, semblaient infinies. Sur un monticule tout proche, une petite silhouette voltigeait comme un insecte autour des plantes. Elle était amorphe, vaguement translucide. Les sprennes du vent étaient des esprits retors qui aimaient souvent s'attarder où l'on ne voulait pas d'eux. Kaladin avait espéré que celui-ci se lasserait et partirait, mais lorsqu'il voulut jeter son bol de bois sur le côté, il s'aperçut qu'il lui collait au doigt. Le sprenne du vent éclata de rire et s'éloigna à toute allure, ayant pris la forme d'un ruban de lumière informe. Kaladin jura, tirant sur son bol. L'esprenne du vent faisait souvent ce genre de farce. Lorsqu'il insista, le bol finit par se libérer. Tout en grommelant, il le jeta à l'un des autres esclaves, lequel s'empressa de lécher les restes de la pitance. « Hé !» chuchota une voix. Kaladin regarda sur le côté. Un esclave à la peau sombre et aux cheveux emmêlés rampait vers lui, timidement, comme s'il s'attendait à ce qu'il se mette en colère. « Vous n'êtes pas comme les autres. » L'esclave leva ses yeux noirs vers le haut, vers le front de Kaladin, qui arborait 3 marques. Les 2 premières formaient une paire de glyphes, reçus 8 mois plus tôt, lors de son dernier jour dans l'armée d'Amaram. La 3e, plus récente, datait de son dernier maître. « Chash », disait ce dernier glyphe. « Dangereux ». L'esclave cachait sa main derrière ses haillons. Un couteau ? Non, c'était ridicule. Aucun de ses esclaves n'aurait pu dissimuler d'armes. Les feuilles cachées dans la ceinture de Kaladin frôlaient déjà la limite du faisable. Mais comme les vieux réflexes n'étaient pas si faciles à chasser, Kaladin observait cette main. « J'ai entendu parler les gardes », poursuivit l'esclave en se rapprochant légèrement. Il avait un tic qui le faisait cligner des yeux trop fréquemment. « Vous avez déjà tenté de vous échapper à ce qu'ils disent. Vous
vous êtes déjà échappé. »
Kaladin ne répondit pas.
« Écoutez, » dit l'esclave en retirant sa main de derrière ses haillons, dévoilant son bol de pitance à moitié plein. « Emmenez-moi avec vous la prochaine fois, » chuchota-t-il. « Je vous donnerai ceci, la moitié de mes repas à compter de maintenant et jusqu'à notre évasion. Je vous en prie. »
Tandis qu'il parlait, il attirait quelques sprènes de faim. Il ressemblait à des mouches brunes qui voltigeaient autour de la tête de l'homme, presque trop petites pour être visibles. Kaladin détourna le regard vers les collines infinies à l'herbe mouvante et changeante. Il posa un bras en travers des barreaux et y appuya la tête, les jambes toujours pendantes.
« Alors ?» demanda l'esclave.
« Vous êtes un idiot. Si vous me donnez la moitié de votre nourriture, vous serez trop faible pour vous enfuir si je m'échappe vraiment. Et je ne compte pas le faire. Ça ne marche jamais.
Mais... »
« 10 fois, » murmura Kaladin. « 10 tentatives d'évasion en 8 mois, avec 5 maîtres différents. Combien ont fonctionné ?»«
Eh bien, je veux dire, vous êtes toujours là. »«
8 mois. 8 mois d'esclavage. 8 mois d'infâmes pâtés et de coups. Autant dire une éternité. Il se rappelait à peine l'armée, désormais. « On ne peut pas se cacher quand on est esclave, » dit Kaladin. « Pas avec cette marque sur le front. » Oh, je me suis échappé plusieurs fois, mais on m'a toujours retrouvé et renvoyé d'où je venais. Autrefois, les hommes le qualifiaient de chanceux, l'appelaient « béni des foudres ». Les soldats étaient superstitieux de nature et, bien qu'il ait résisté au départ à cette manière de penser, ça lui devenait de plus en plus difficile. Chaque personne qu'il avait jamais tenté de protéger avait trouvé la mort. Encore et encore. Et à présent, il se trouvait dans une situation pire encore que celle de départ. Mieux valait ne pas résister. C'était son lot, et il s'y était résigné. Il y avait là une forme de pouvoir, une liberté, celle de n'avoir à se soucier de rien. L'esclave finit par comprendre que Kaladin n'ajouterait rien et se retira donc pour terminer son écuelle. Les chariots continuaient à rouler, et des champs verdoyants se déployaient de tous côtés. Cependant, la zone entourant les chariots cahotants était nue. À leur approche, l'herbe s'écartait, chaque brin individuel se retirant à l'intérieur d'un trou minuscule dans la pierre. Après le départ des chariots, l'herbe pointait timidement hors de sa cachette et tendait ses brins vers le ciel. Ainsi, les cages progressaient le long de ce qui ressemblait à une grande route de pierre, dégagée tout spécialement pour eux. À ce niveau des collines inconquises, les tempêtes majeures étaient d'une incroyable puissance. Les plantes avaient appris à survivre. C'était ce qu'il fallait faire. Apprendre à survivre. S'armer de courage. Endurer la tempête. Kaladin perçut l'odeur d'un autre corps malpropre et suant et entendit un bruit de pas traînant. Il regarda sur le côté d'un air méfiant, s'attendant à voir le même esclave de retour. Cependant, c'était cette fois un autre homme. Il possédait une longue barbe noire encombrée de miettes de nourriture et raide de crasse. Kaladin gardait sa propre barbe plus courte, car il autorisait les mercenaires de Tevlagv à la tailler périodiquement. Comme Kaladin, l'esclave était habillé des vestiges d'un sac marron attaché à l'aide d'un bout de tissu, et c'était un sombre iris, bien entendu. Ses yeux semblaient d'un vert sombre et profond, même s'il était difficile de s'en rendre compte avec les sombres iris. Leurs yeux paraissaient toujours noirs ou bruns, jusqu'à ce qu'on les voie à la lumière adéquate. Le nouvel arrivant eut un mouvement de recul et leva les mains. Il avait une éruption cutanée sur une main, la peau très légèrement décolorée. Sans doute s'était-il approché parce qu'il avait vu Kaladin répondre à l'autre homme. Les esclaves le craignaient depuis le premier jour, mais ils étaient curieux de toute évidence. Kaladin se détourna en soupirant. L'esclave s'assit d'un air hésitant.
« Ça ne vous dérange pas si je vous demande comment vous êtes devenu esclave, l'ami ? Je ne peux pas m'empêcher de m'interroger, comme nous tous. »
À en juger par son accent et ses cheveux sombres, cet homme était aléti, comme Kaladin. La plupart des esclaves l'étaient. Kaladin ne répondit pas à sa question.
« Moi, j'ai volé un troupeau de chules, » déclara l'homme. «
Il avait la voix râpeuse, comme le bruit des pages que l'on frotte l'une contre l'autre.
Si je n'avais volé qu'un seul chul, on m'aurait peut-être seulement battu, mais tout un troupeau. 17 têtes.
Il gloussa pour lui-même, admirant sa propre audace. Dans le coin opposé du chariot, quelqu'un toussa de nouveau. Ils étaient tous en piètre état, même pour des esclaves. Faibles, maladifs, mal nourris. Certains, comme Kaladin, s'étaient enfuis à plusieurs reprises, bien que Kaladin soit le seul à arborer une marque chache. Ils étaient les plus inutiles d'une caste inutile, achetés avec une remise considérable. On les emmenait sans doute se faire revendre dans un lieu éloigné, manquant cruellement de main-d'œuvre. Il y avait de nombreuses petites villes indépendantes le long de la côte des collines inconquises, des endroits où les règles vorines régissant l'utilisation des esclaves n'étaient qu'une rumeur lointaine. Il était dangereux de s'aventurer par là. Ces terres n'étaient gouvernées par personne. Et en coupant à travers les terres et en évitant les routes commerciales établies, Tevlagv pouvait facilement se mettre à dos les mercenaires sans emploi. Des hommes sans honneur qui ne craindraient pas de massacrer un marchand d'esclaves et sa cargaison pour voler quelques chules et chariots. Des hommes sans honneur. Existait-il des hommes qui en possèdent ? Non, se dit Kaladin. L'honneur est mort il y a 8 mois.
Alors ? Demanda l'homme à la barbe en bataille. Qu'avez-vous fait pour devenir esclave ?
Kaladin leva de nouveau le bras contre les barreaux.
Comment avez-vous été capturé ?
Drôle d'histoire, dit l'homme. Kaladin n'avait pas répondu à sa question, mais il avait répondu tout court. Ça semblait suffisant.
C'était une femme, évidemment. J'aurais dû me douter qu'elle allait me vendre.
Vous n'auriez pas dû voler de chules. Trop lent. Vous auriez dû choisir des chevaux. L'homme éclata d'un rire sonore.
« Des chevaux? Vous me croyez cinglé ou quoi? Si on m'avait surpris à voler des chevaux, on m'aurait pendu. Les chules, au moins, ne m'ont valu qu'une marque d'esclave. »
Kaladin regarda sur le côté. La marque sur le front de cet homme était plus ancienne que celle de Kaladin, et la peau qui entourait la cicatrice était blanche. Quelle était cette paire de glyphes?
« Sasmorum, » dit Kaladin.
C'était le district où l'homme avait reçu cette marque. L'homme leva les yeux, stupéfait.
« vous connaissez les glyphes ?»
Plusieurs des esclaves proches s'animèrent en entendant ce détail insolite.
« Votre histoire doit être encore meilleure que je ne le pensais, l'ami. »
Kaladin regarda en direction de ces herbes agitées par le vent léger. Chaque fois que le vent se levait, les plus sensibles des brins d'herbe se renfonçaient dans leurs trous, laissant le paysage aussi clairsemé que la robe d'un cheval malade. Ce spren du vent était toujours là, se déplaçant entre les plaques d'herbe. Depuis combien de temps le suivait-il? Au moins 2 ou 3 mois. C'était franchement curieux. Peut-être n'était-ce pas le même. Ils étaient impossibles à distinguer.
« Alors ?» insista l'homme. « Pourquoi êtes-vous ici ?»«
Il y a de nombreuses raisons à ma présence. » répondit Kaladin. Des échecs, des crimes, des trahisons. Comme pour la plupart d'entre nous, sans doute. Autour de lui, plusieurs hommes acquiescèrent par des grognements. L'un de ces grognements dégénéra ensuite en toux sèche. Toux persistante, songea une partie de l'esprit de Kaladin, accompagnée d'un excès de mucosité et de marmonnements fiévreux la nuit. On dirait la grince toux.
« Bon, » dit l'homme bavard. Je devrais peut-être vous poser la question différemment, me montrer plus précis. C'est ce que ma mère dit tout le temps. Dis ce que tu penses et demande ce que tu veux. Quelle est l'histoire qui vous a valu cette première marque ?
Kaladin s'assit et sentit le chariot cahoter en dessous de lui. J'ai tué un pâle iris.
Son compagnon sans nom siffla de nouveau, cette fois d'un air encore plus approbateur.
Ça m'étonne qu'on vous ait laissé vivre.
« Ce n'est pas d'avoir tué ce paliris qui a fait de moi un esclave, » répondit Kaladin. « Le problème, c'est celui que je n'ai pas tué. »«
Comment ça ?»
Kaladin secoua la tête, puis cessa de répondre aux questions de l'homme bavard, lequel finit par aller s'asseoir à l'avant de la cage, regardant fixement ses pieds nus. Quelques heures plus tard, Kaladin était toujours assis à la même place, tâtant distraitement les glyphes sur son front. toute sa vie, jour après jour, consistait à se faire transporter dans ses maudits chariots. Ses premières marques avaient guéri depuis longtemps, mais la peau entourant la marque chache était rouge, irritée, couverte de croûtes. Elle palpitait presque comme un deuxième cœur. Elle lui faisait encore plus mal que la brûlure qu'il s'était faite enfant en s'emparant du manche chauffé d'une casserole. Les leçons que le père de Kaladin lui avait enfoncées dans le crâne murmuraient au fond de son cerveau, lui indiquant la manière adéquate de soigner une brûlure. Appliquer un baume pour empêcher l'infection, laver une fois par jour. Loin de le réconforter, ses souvenirs l'agaçaient. Il ne disposait pas de sève de quadrifole ni d'huile de listre. Il n'avait même pas d'eau pour se laver. Les parties de la plaie qui étaient recouvertes d'une croûte tiraient sur la peau de son front. Il avait du mal à passer quelques minutes sans plisser le front et irriter la plaie. Il s'était habitué à lever la main pour essuyer des filets de sang qui coulaient des craquelures. Son avant-bras droit en était maculé. S'il avait un miroir, il aurait sans doute repéré de minuscules sprènes de pourriture rouge rassemblées autour de la plaie. Le soleil se couchait à l'ouest, mais les chariots roulaient toujours. Salas, à la lueur violette, pointait à l'horizon à l'est, hésitante tout d'abord comme pour s'assurer que le soleil avait disparu. La nuit était dégagée et les étoiles frissonnaient haut dans le ciel. La cicatrice de Taln, amas d'étoiles d'un rouge profond qui contrastait nettement avec les blanches scintillantes, était haute dans le ciel en cette saison. L'esclave qui toussait un peu plus tôt avait recommencé. Une toux grasse et convulsive. Autrefois, Kaladin se serait empressé de l'aider, mais quelque chose avait changé en lui. Tant de gens qu'il avait voulu aider étaient morts à présent. Il lui semblait, de manière irrationnelle, que cet homme s'en tirerait bien mieux sans son intervention. Après avoir échoué à protéger Tien, puis Dalet et son équipe, puis 10 groupes successifs d'esclaves, il avait du mal à trouver la volonté de recommencer. 2 heures après avoir dépassé la première lune, Tevlakv demanda enfin que l'on s'arrête. Ces 2 mercenaires brutaux descendirent de leur emplacement au sommet des chariots, puis s'en allèrent préparer un petit feu. Taran, le jeune serviteur à la silhouette dégingandée, s'occupa des chules. Ces grands crustacés étaient presque aussi imposants que les chariots eux-mêmes. Ils s'installèrent, puis se retirèrent dans leurs coquilles pour la nuit, avec des poignées de graines. Bientôt, ils ne formèrent plus que 3 masses dans le noir, presque impossible à distinguer des rochers. Enfin, Tevlakv passa les esclaves en revue un par un, distribuant une louche d'eau à chacun afin de s'assurer que ses investissements soient en bonne santé, ou du moins, autant que pouvait l'être ce groupe en piètre état. Tevlakv commença par le premier chariot, et Kaladin, toujours assis, plongea les doigts dans sa ceinture de fortune, vérifiant la présence des feuilles qu'il y avait cachées. Elles émirent un craquement satisfaisant, et leur enveloppe raide et sèche était rêche contre sa peau. Il ne savait pas encore très bien ce qu'il allait en faire. Il s'en était emparé sur un coup de tête à l'une des occasions où on l'avait laissé sortir du chariot pour se dégourdir les jambes. Comme il doutait que quiconque à part lui dans la caravane sache reconnaître la vénèbre, trifolier, feuilles étroites, il n'avait pas pris un très grand risque. Distraitement, il sortit les feuilles et se mit à les frotter entre paume et index. Elles devaient sécher avant d'atteindre leur pleine puissance. Pourquoi les conservait-il? Comptait-il les donner à Tevlakv et se venger? Ou ne les gardait-il qu'en cas d'imprévu, au cas où les choses tourneraient trop mal, deviendraient trop insoutenables? « Je ne suis quand même pas tombé si bas », songea-t-il. C'était plus probablement le fruit de son réflexe consistant à s'emparer d'une arme lorsqu'il en voyait une, aussi inhabituelle soit-elle. Le paysage était sombre. Salas était la plus petite et la plus faible des lunes, et bien que sa couleur violette ait inspiré d'innombrables poètes, elle ne vous aidait pas beaucoup à voir votre propre main devant votre visage. « Oh !» dit une voix féminine et douce. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une silhouette translucide, haute d'une paume à peine, apparut au-dessus du rebord du chariot, près de Kaladin. Elle le gravit et pénétra dans le chariot comme si elle escaladait un haut plateau. la sprène du vent avait pris la forme d'une jeune femme, les sprènes plus grands pouvaient changer de taille et de forme, avec un visage angulaire et de longs cheveux flottants qui se fondaient dans la brume derrière sa tête. Elle, qu'Aladine ne pouvait s'empêcher de penser à ce sprène comme étant de sexe féminin, était formée de bleu et de blanc pâle, et portait une robe blanche, simple et ample, à la coupe enfantine qui lui tombait à mi-mollet. Comme ses cheveux, elle se fondait dans la brume tout en bas. Ses pieds, ses mains et son visage étaient d'une vive netteté, et elle avait les hanches et le buste d'une femme svelte. Aladine regarda l'esprit d'un air songeur. Les sprènes étaient partout. La plupart du temps, on se contentait de les ignorer. Mais celle-ci était singulière. La sprène du vent marchait vers le haut, comme si elle gravissait un invisible escalier. Lorsqu'elle atteignit une hauteur de laquelle elle pouvait distinguer nettement la main de Aladine, il referma les doigts autour des feuilles noires. Elle contourna son poing en décrivant un cercle. Bien qu'elle brille comme une image rémanente après avoir regardé le soleil, sa silhouette ne fournissait aucun éclairage réel. Elle se pencha pour regarder la main de Aladine sous différents angles. Comme un enfant qui s'attend à trouver une friandise cachée.
« Qu'est-ce que c'est ?»
Sa voix était proche du murmure.
« Vous pouvez me le montrer ? Je n'en parlerai à personne. C'est un trésor ? Vous avez découpé un morceau de la cape de la nuit et vous l'avez gardé en secret ? Est-ce que c'est le cœur d'un scarabée, pour être aussi minuscule et puissant à la fois ?»
Comme il ne répondait pas, la sprène se mit à bouder. Elle s'éleva en flottant, bien qu'elle ne possède pas d'aile, et le regarda droit dans les yeux.
« Aladine, pourquoi faut-il que vous m'ignoriez ?»
Il sursauta. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Elle sourit d'un air espiègle, puis s'éloigna d'un bond, ce qui brouilla sa silhouette qui se changea en un long ruban de lumière blanc-bleu. Elle s'élança à travers les barreaux, se tortillant dans l'air, comme une bande de tissu prise dans le vent, et se faufila en dessous du chariot. « Nom des foudres !» dit Aladine en se relevant d'un bond. « L'esprit, qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez-le » L'esprène n'appelait pas les gens par leur nom. L'esprène n'était pas intelligent. Les plus grands, comme l'esprène du vent ou ceux des fleuves, étaient capables d'imiter les voix et les expressions, mais ils ne réfléchissaient pas réellement. Ils ne... « Quelqu'un d'autre a entendu ça ?» demanda Aladine en se retournant vers les autres occupants de la cage. Le toit était tout juste assez haut pour lui permettre de se tenir debout. Les autres étaient allongés, attendant de recevoir leur louche d'eau. Il n'obtint aucune autre réaction que quelques marmonnements lui intimant le silence et quelques quintes de toux du malade dans le coin. Même l'ami de Aladine d'un peu plus tôt l'ignora. L'homme avait sombré dans une sorte de stupeur et regardait fixement ses pieds, agitant les orteils de temps à autre. Peut-être n'avait-il pas vu la sprène. Beaucoup des plus grands étaient invisibles, sauf aux yeux de la personne qu'il tourmentait. Aladine se rassit sur le sol du chariot, laissant pendre ses jambes à l'extérieur. La sprène du vent avait bel et bien prononcé son nom, mais elle avait dû répéter quelque chose qu'elle avait entendu auparavant. Seulement, aucun des hommes présents dans la cage ne connaissait son nom. « Peut-être que je perds la tête, » songea Aladine. « Je vois des choses qui ne sont pas là. J'entends des voix. » Il inspira profondément, puis ouvrit la main. Sa poigne avait brisé les feuilles. Il allait devoir les ranger pour éviter de...
« Ces feuilles ont l'air intéressants !»
déclara cette même voix féminine.
« Vous les aimez beaucoup, n'est-ce pas ?»
Aladine sursauta et se retourna sur le côté. La sprène se tenait debout dans le vide juste à côté de sa tête, sa robe blanche ondulant sous l'effet d'un vent que Aladine ne percevait pas. « D'où connaissez-vous mon nom ? » demanda-t-il avec insistance. La sprène du vent ne répondit pas. Elle s'approcha des barreaux en marchant sur l'air, puis passa la tête à l'extérieur pour regarder Tevlagv, le marchand d'esclaves, distribué à boire aux derniers esclaves du chariot. Puis elle se retourna vers Aladine.
« Pourquoi vous ne vous battez pas ? Vous le faisiez avant, mais vous avez arrêté. »«
Qu'est-ce que ça peut vous faire, l'esprit ?» Elle inclina la tête.
« Je n'en sais rien, »
dit-elle, comme étonnée elle-même.
« Mais ça m'intéresse. C'est curieux, non ?»
C'était plus que curieux. Que penser d'une Spren qui, en plus de l'appeler par son nom, semblait se rappeler ce qu'il faisait des semaines auparavant ?
Vous savez, Kaladin, les gens ne mangent pas de feuilles,
dit-elle en croisant ses bras translucides avant d'incliner la tête.
À moins que si, je ne me rappelle pas. Vous êtes tellement étrange à mettre certaines choses dans votre bouche et à en évacuer d'autres quand vous croyez que personne ne vous regarde.
Comment connaissez-vous mon nom ?
Chuchota-t-il.
Et vous, comment le connaissez-vous ?
Je le connais parce que c'est le mien. Mes parents me l'ont dit, j'en sais rien.
Eh bien, moi non plus,
répondit-elle, hochant la tête comme si elle venait de remporter une dispute acharnée.
« Très bien, dit-il, mais pourquoi est-ce que vous utilisez mon nom ?»«
Parce que c'est poli et que vous êtes impoli. »«
Les Sprennes ne savent pas ce que ça signifie. »«
Là, vous voyez ? »
dit-elle en le montrant du doigt.
« Impoli. »
Kaladin cligna des yeux. Il était vrai qu'il se trouvait loin de l'endroit où il avait grandi, foulait un sol étranger et mangeait une nourriture étrangère. Peut-être les Sprennes qui vivaient ici étaient-ils différents de ceux de chez lui.
« Donc, pourquoi vous ne vous battez pas ? »
demanda-t-elle en voltant pour aller se poser sur ses jambes, levant le regard vers son visage. Elle ne semblait peser aucun poids. « Je ne peux pas me battre, » dit-il tout bas.
« Vous l'avez déjà fait. »
Il ferma les yeux et posa la tête en avant contre les barreaux. « Je suis épuisé. » Il ne parlait pas de fatigue physique, bien que 8 mois passés à manger des restes aient volé une grande partie de la force qu'il avait cultivée pendant la guerre. Il se sentait fatigué, même lorsqu'il dormait assez. Même ces rares jours où il n'éprouvait ni la faim, ni le froid, ni les courbatures à cause des coups. Épuisé.
« Vous aviez déjà éprouvé de la fatigue ?»
« J'ai échoué l'esprit, » répliqua-t-il en serrant très fort les yeux. « Il faut vraiment que vous me tourmentiez comme ça. » Ils étaient tous morts, Sen et Dalet, et avant eux Tux et les Rafleurs, encore avant Tien, et avant du sang sur ses mains et le cadavre d'une jeune fille à la peau blême. Certains des esclaves tout proches marmonnèrent, croyant sans doute qu'il était fou. N'importe qui pouvait attirer un Spren, mais on apprenait très tôt qu'il ne servait à rien de leur parler. Était-il effectivement fou ? Peut-être était-ce souhaitable. La folie offrait une échappatoire à la douleur, au lieu de quoi cette perspective le terrifiait. Il ouvrit les yeux. Tevlagv se dandinait enfin jusqu'au chariot de Kaladin, muni de son seau d'eau. L'homme corpulent, aux yeux marrons, marchait en boitant très légèrement, conséquence d'une fracture de la jambe, certainement. Il était Taïlen, et tous les Taïlen de sexe masculin arboraient la même barbe d'un blanc pur, quel que soit leur âge ou la couleur de leurs cheveux, ainsi que des sourcils blancs. Ces sourcils étaient très longs, et les Taïlen les portaient repoussés derrière leurs oreilles, ce qui donnait l'impression qu'ils possédaient 2 mèches blanches dans ses cheveux noirs. Ses habits, pantalon rayé noir et rouge avec un pull bleu sombre assorti à la couleur de son bonnet de laine, avait été de bonne qualité, mais il commençait à tomber en loques. Avait-il autrefois été autre chose qu'un marchand d'esclaves ? Cette vie, l'achat et la vente de chair humaine sans arrière-pensée, semblait avoir un effet sur les hommes. Elle épuisait l'âme, même si elle remplissait la bourse d'argent. Tevlagv resta à distance de Kaladin, portant sa lanterne à huile pour inspecter l'esclave qui toussait à l'avant de la cage. Tevlagv appela ses mercenaires. Blut, Kaladin ignorait pourquoi il avait pris la peine d'apprendre leur nom, s'approcha. Tevlagv lui parla tout bas en désignant l'esclave. Blut hocha la tête, son visage massif plongé dans l'ombre de la lanterne, et dégagea le gourdin de sa ceinture. La sprène du vent prit la forme d'un ruban blanc, puis se précipita vers le malade. Elle tournoya et virevolta plusieurs fois avant d'atterrir sur le sol et de reprendre sa forme de jeune fille. Elle se pencha pour inspecter l'homme, comme un enfant curieux. Kaladin se détourna et ferma les yeux, mais il entendait toujours les quintes de tout. La voix de son père lui répondit à l'intérieur de sa tête. pour guérir la grince-toux, déclara l'intonation précise et prudente. Administrer chaque jour 2 poignées de sangrelière réduite en poudre. Si tu n'en disposes pas, assure-toi de donner au patient du liquide en grande quantité, de préférence en y ajoutant du sucre. Tant que le patient reste hydraté, il est fort probable qu'il survive. La maladie est bien moins terrible que le bruit ne le laisse penser. Fort probable qu'il survive. Les quintes de tous se poursuivaient. Quelqu'un ouvrit la porte de la cage. Saurait-il comment venir en aide à cet homme? La solution était si simple. S'il lui donnait de l'eau, il vivrait. Aucune importance. Mieux valait ne pas s'impliquer. Des mourants sur un champ de bataille, un visage juvénile si cher et familier tourné vers Kaladin dans l'espoir qu'il le sauve. Une épée entaillant un cou. Un porte-éclat qui chargeait à travers les rangs d'Amaram. Sang. Mort. Échec. Douleur. Et la voix de son père. « Est-ce que tu peux vraiment l'abandonner, mon fils? Le laisser mourir alors que tu aurais pu l'aider ?»« Nom des foudres !»«
Arrêtez !» s'écria Kaladin en se levant.
Les autres esclaves s'empressèrent de reculer. Blut se précipita pour claquer la porte de la cage et leva son gourdin. Tevlagv se réfugia derrière le mercenaire, l'utilisant comme bouclier. Kaladin inspira profondément, referma la main sur les feuilles, puis leva l'autre vers sa tête pour essuyer une trace de sang. Il traversa la petite cage, dont le sol de bois résonna sous ses pieds. Blut regarda d'un air mauvais Kaladin s'agenouiller près du malade. La lumière vacillante éclairait un visage allongé aux traits tirés et aux lèvres presque exsangues. L'homme avait craché du mucus en toussant. Il était verdâtre et solide. Kaladin tâta son cou pour voir s'il était enflé, puis inspecta ses yeux marron foncé. « On appelle ça la grince-toux, » dit Kaladin. « Il survivra si vous lui donnez 1 louche d'eau supplémentaire toutes les 2 heures, pendant 5 jours environ. Vous allez devoir l'obliger à boire. Ajoutez du sucre, si vous en avez. » Blut gratta son ample menton, puis consulta d'un coup d'œil le marchand d'esclaves plus petit que lui.
« Faites-le sortir, » dit Tevlakv.
L'esclave blessé se réveilla quand Blut déverrouilla la cage. D'un geste de son gourdin, le mercenaire fit reculer Kaladin, qui se retira à contre-cœur. Après avoir rangé son arme, Blut saisit l'esclave sous les bras et le tira dehors, tout en s'efforçant de garder un œil nerveux sur Kaladin. La dernière tentative d'évasion manquée de Kaladin avait impliqué 20 esclaves armés. Son maître aurait dû l'exécuter en représailles, mais il l'avait qualifié d'intrigant et lui avait imprimé la marque « Chash » avant de le vendre pour une somme dérisoire. Il semblait toujours y avoir une raison pour que Kaladin survive quand ceux qu'il essayait d'aider mouraient. Certains auraient pu y voir une bénédiction, mais il y voyait une forme de tourment ironique. Lorsqu'il appartenait à son maître précédent, il avait passé quelque temps à s'entretenir avec un esclave de l'Ouest, un Sélayan qui parlait de l'ancienne magie de leur légende, et de sa capacité à maudire les gens. Était-ce donc là ce qui arrivait à Kaladin ? Ne dis pas de bêtises, se réprimanda-t-il. La porte de la cage se remit brusquement en place et se verrouilla. Les cages étaient nécessaires. Tevlakv devait protéger son fragile investissement des tempêtes majeures. Les cages possédaient des parois de bois que l'on pouvait relever et fixer en place lors des violentes bourrasques. Blut entraîna l'esclave vers le feu, près du tonneau d'eau qu'on avait sorti du chariot. Kaladin se détendit. « Voilà, » se dit-il. « Peut-être que tu peux toujours aider. Peut-être qu'il y a une raison de se soucier des autres. » Kaladin ouvrit la main et baissa les yeux vers les feuilles noires en train de s'effriter dans sa paume. Il n'en avait pas besoin. Les glisser dans la boisson de Tevlakv serait non seulement difficile, mais inutile. Voulait-il réellement la mort du marchand d'esclaves ? Qui gagnerait-il ? Un craquement étouffé résonna dans l'air, suivi d'un deuxième, plus sourd, comme si quelqu'un laissait tomber un sac de graines. Kaladin releva vivement la tête pour regarder l'endroit où Blut avait déposé l'esclave malade. Le mercenaire brandit son gourdin une fois de plus, puis l'abaissa violemment, et l'arme heurta le crâne de l'esclave avec un craquement. Il n'avait pas émis le moindre cri de douleur, ni de protestation. Son cadavre s'affaissa dans le noir. Blut le souleva d'un air désinvolte et le jeta sur son épaule. « Non !» s'écria Kaladin, qui bondit à travers la cage et frappa violemment les barreaux de ses deux mains. Tevlak se tenait debout près du feu pour s'y réchauffer. « Allez aux foudres !» hurla Kaladin. « Il aurait pu vivre, espèce de salopard !» Tevlak lui lança un coup d'œil, puis, sans se presser, le marchand s'avança, redressant son bonnet bleu foncé. « Il vous aurait tous rendu malade, voyez-vous » Sa voix possédait un léger accent, qui écrasait les mots sans donner d'emphase adéquate aux voyelles. Aux oreilles de Kaladin, les Taïlènes semblaient toujours marmonner. « Je n'ai aucune envie de perdre tout un chariot pour un seul homme. » « Il avait dépassé le stade de la contagion, » répondit Kaladin en cognant de nouveau les barreaux. « Si un seul d'entre nous devait l'attraper, ce serait déjà fait. »
« J'espère bien que non. Je crois qu'il était trop tard pour le sauver. »
« Je vous ai dit le contraire. »
« Et je devrais vous croire, déserteur, »
demanda Tevlak, amusé.
« Un homme dont le regard brûle d'une haine pareille. »
Vous m'auriez tué. Il haussa les épaules.
Je m'en moque tant que vous êtes fort quand viendra le moment de vous vendre. Vous devriez me bénir de vous avoir sauvé de la maladie de cet homme.
Je bénirai votre cairn quand je l'empilerai moi-même, répliqua Kaladin. Tevlak sourit et se dirigea de nouveau vers le feu.
Gardez cette rage, déserteur, ainsi que cette force. Elles me vaudront une belle somme lors de notre arrivée.
« Pas si vous mourrez avant, » songea Kaladin. Tevlak réchauffait toujours le restant de l'eau du seau qu'il utilisait pour les esclaves. Il s'en faisait du thé en la suspendant au-dessus du feu. Si Kaladin s'assurait d'être abreuvé en dernier, puis qu'il réduisait les feuilles en poudre et les versait dans le... Il se figea, puis baissa les yeux vers ses mains. Dans sa hâte, il avait oublié qu'il tenait la vénèbre. Il avait laissé tomber les particules en cognant les barreaux. Seuls quelques fragments restaient collés à ses paumes, pas assez pour être efficaces. Il se retourna pour regarder derrière lui. Le sol de la cage était sale et couvert de crasse. Si les particules étaient tombées là, il n'avait aucun moyen de les récupérer. Le vent se leva soudain et souffla poussière, miettes et terre hors du chariot dans la nuit. Même là, Kaladin avait échoué. Il se laissa retomber, dos contre les barreaux, et baissa la tête, vaincu. Cette maudite sprenne du vent continuait à lui tournoyer tout autour, l'air perplexe.